Chapitre 17. Une semaine plus tard, Dorian Gray était assis dans la serre de Selbywell, parlant à la jolie duchesse de Monmouth, qui, avec son mari, un homme de 60 ans, à l'air fatigué, était parmi ses hôtes. C'était l'heure du thé, et la douce lumière de la grosse lampe couverte de dentelle qui reposait sur la table faisait briller les chines délicates et l'argent repoussé du service. La duchesse présidait la réception. Ses mains blanches se mouvaient gentiment parmi les tasses, et ses lèvres d'un rouge sanglant riaient à quelque chose que Dorian lui soufflait. Lord Henry était étendu sur une chaise d'osier drapée de soie, les regardant. Sur un divan de couleur pêche, Lady Narborough feignait d'écouter la description que lui faisait le duc du dernier scarabée brésilien dont il venait d'enrichir sa collection. Trois jeunes gens, en des smokings recherchés, offraient des gâteaux à quelques dames. La société était composée de 12 personnes et l'on attendait plusieurs autres encore pour le jour suivant. « De quoi parlez-vous ? » dit Lord Henry, se penchant vers la table et y déposant sa tasse. « J'espère que Dorian vous fait part de mon plan de rebaptiser toute chose, Gladys. C'est une idée charmante. » Je n'ai pas besoin d'être rebaptisé, Harry, répliqua la duchesse, le regardant de ses beaux yeux. Je suis très satisfaite de mon nom, et je suis certaine que M. Gray est content du sien. Ma chère Gladys, je ne voudrais changer aucun de vos deux noms pour tout au monde. Ils sont tous deux parfaits. Je pensais surtout aux fleurs. Hier, je cueillis une orchidée pour ma boutonnière. C'était une adorable fleur tachetée, aussi perverse que les 7 péchés capitaux. Distraitement, je demandai à l'un des jardiniers comment elle s'appelait. Il me répondit que c'était un beau spécimen de Robinsoniana ou quelque chose d'aussi affreux. C'est une triste vérité, mais nous avons perdu la faculté de donner de jolis noms aux objets. Les noms sont tout. Je ne me dispute jamais au sujet des faits. Mon unique querelle est sur les mots. C'est pourquoi je hais le réalisme vulgaire en littérature. L'homme qui appellerait une bêche, devrait être forcé d'en porter une. C'est la seule chose qui lui conviendrait. Alors, comment nous appellerons-nous, Harry ? Demanda-t-elle. Son nom est le prince paradoxe, dit Dorian. Mais je le reconnais à ce trait, s'exclama la duchesse. Je ne veux rien entendre, dit Lord Henry, s'asseyant dans un fauteuil. On ne peut se débarrasser d'une étiquette. Je refuse le titre. Les majestés ne peuvent abdiquer, avertirent de jolies lèvres. Vous voulez que je défende mon trône, alors ? Ben oui. Je dirai les vérités de demain. Oh, je préfère les fautes d'aujourd'hui, répondit la duchesse. Vous me désarmez, Gladys, s'écria-t-il, limitant son opiniâtreté. De votre bouclier, Harry, non de votre lance. Oh, je ne joue jamais contre la beauté, dit-il avec son inclinaison de main. C'est une erreur, croyez-moi, vous mettez la beauté trop haut. Comment pouvez-vous dire cela ? Je crois, je l'avoue, qu'il vaut mieux être beau que bon, mais d'un autre côté, personne n'est plus disposé que je ne le suis à reconnaître qu'il vaut mieux être bon que laid. Ah, la laideur est alors un des 7 péchés capitaux, s'écria la duchesse. Mais qu'advient-il de votre comparaison sur les orchidées ? La laideur est alors un des 7 péchés capitaux, s'écria la duchesse. Mais qu'advient-il de votre comparaison sur les orchidées ? La laideur est une des 7 vertus capitales, Gladys. Vous, en bonne taurine, devez les mésestimer. La bière, la Bible et les 7 vertus capitales ont fait notre Angleterre ce qu'elle est. Vous n'aimez donc pas votre pays ? J'y vis. C'est que vous en censurez le meilleur. Voudriez-vous que je m'en rapportasse au verdict de l'Europe sur nous ? Interrogea-t-il. Et que dit-elle de nous ? Que Tartuffe a émigré en Angleterre et y a ouvert boutique. Est-ce de vous, Harry ? Oh, je vous le donne. Je ne puis m'en servir, c'est trop vrai. Vous n'avez rien à craindre, le compatriote ne se reconnaît jamais dans une description. Ils sont pratiques, ils sont plus rusés que pratiques. Quand ils établissent leur grand livre, ils balancent la stupidité par la fortune et le vice par l'hypocrisie. Cependant, nous avons fait de grandes choses. Les grandes choses nous furent imposées, Gladys. Nous en avons porté le fardeau, pas plus loin que le Stock Exchange. Elle secoua la tête. « Mais je crois dans la race !» s'écria-t-elle. « Elle représente les survivants de la poussée. Elle suit son développement. La décadence ne m'intéresse plus. Mais qu'est-ce que l'art ? » demanda-t-elle. « Une maladie. L'amour ? Une illusion. La religion ? Une chose qui remplace légalement la foi. Vous êtes un sceptique ? Oh, jamais ! Le scepticisme est le commencement de la foi. Mais qu'êtes-vous ? Définir et limiter. Donnez-moi un guide. Les fils sont brisés. Vous vous perdriez dans le labyrinthe. Vous m'égarez. Parlons d'autre chose. Notre hôte est un sujet délicieux. Il fut baptisé, il y a des ans, le prince charmant. Ah, ne me faites pas souvenir de cela, s'écria Dorian Gray. Notre hôte est plutôt désagréable ce soir, remarqua avec enjouement la princesse. Je crois qu'il pense que Monmouth ne m'a pas épousée, d'après ses principes scientifiques, que comme le meilleur spécimen qu'il a pu trouver du papillon moderne. Bon, j'espère du moins que l'idée ne lui en viendra pas de vous transpercer d'une épingle, duchesse, dit Dorian en souriant. Oh, oh, ma femme de chambre s'en charge quand je l'ennuie. Et comment pouvez-vous l'ennuyer, duchesse ? Oh, pour les choses les plus triviales, je vous assure. Ordinairement, parce que j'arrive à 9h10, que je lui confie qu'il faut que je sois habillé pour 8h30. Quelle erreur de sa part ! Ah, oh, vous devriez la congédier. Je n'ose, monsieur Gray. Pensez donc qu'elle m'invente des chapeaux. Vous souvenez-vous de celui que je portais au garden party de Lady Hilstone ? Vous ne vous en souvenez pas, je le sais, mais c'est gentil de votre part de faire semblant de vous en souvenir. Eh bien, il a été fait avec rien. Tous les jolis chapeaux sont faits de rien. Comme les bonnes réputations, Gladys, interrompit Lord Henry. Chaque effet que vous produisez vous donne un ennemi de plus. Pour être populaire, il faut être médiocre. Ah, pas avec les femmes, fit la duchesse hochant la tête. Et les femmes gouvernent le monde. Je vous assure que nous ne pouvons supporter les médiocrités. Nous autres femmes, comme on dit, aimons avec nos oreilles, comme vous, autres hommes, aimez avec vos yeux, si toutefois vous aimez jamais. Il me semble que nous ne ferons jamais autre chose, murmura Dorian. Alors vous n'avez jamais réellement aimé, monsieur Gray, répondit la duchesse sur un ton de moquerie triste. « Ma chère Gladys, s'écria Lord Henry, comment pouvez-vous dire cela ? La passion vit par sa répétition, et la répétition convertit en art un penchant. D'ailleurs, chaque fois qu'on aime, c'est la seule fois qu'on n'ait jamais aimé. La différence d'objet n'altère pas la sincérité de la passion, elle l'intensifie simplement. Nous ne pouvons avoir dans la vie au plus qu'une grande expérience, et le secret de la vie est de la reproduire le plus souvent possible. Même quand vous fûtes blessé par elle, Harry ? Demanda la duchesse après un long silence. Surtout quand on fut blessé par elle, répondit Lord Henry. Une curieuse expression dans l'œil La duchesse, se tournant, regarda Dorian Gray. « Que dites-vous cela, monsieur Gray ? » interrogea-t-elle. Dorian hésita un moment. Il rejeta sa tête en arrière et riant. « Je suis toujours d'accord avec Harry, duchesse. Même quand il a tort ? Mais Harry n'a jamais tort, duchesse. Et sa philosophie vous rend heureux ? Je n'ai jamais recherché le bonheur. Qui a besoin du bonheur ? Je n'ai cherché que le plaisir. Et vous l'avez trouvé, monsieur Gray ? Souvent, oui, trop souvent. » La duchesse soupira. « Je cherche la paix, dit-elle, et si je ne vais pas m'habiller, je ne la troublerai pas ce soir. « Laissez-moi vous cueillir quelques orchidées, duchesse, » s'écria Dorian en se levant et marchant dans la serre. « Vous flirtez de trop près avec lui, » dit Lord Henry à sa cousine. « Faites attention, il est fascinant. » S'il ne l'était pas, il n'y aurait point de combat. Allez, les Grecs affrontent les Grecs, alors. Je suis du côté des Troyens. Ils combattaient pour une femme. Ils furent défaits. Il y a des choses plus tristes que la défaite, répondit-elle. Vous galopez, les rênes sur le cou. C'est l'allure qui nous fait vivre. Oh, j'écrirai cela dans mon journal ce soir. Quoi ? Qu'un enfant brûlé aime le feu. Je ne suis pas même roussi, mes ailes sont intactes. Vous en usez pour tout, excepté pour la fuite. Le courage a passé des hommes aux femmes, c'est une nouvelle expérience pour nous. Vous avez une rivale. Qui ? Lady Marlowe, souffla-t-il en riant, elle l'adore. Oh, vous me remplissez de crainte. Le rappel de l'antique nous est fatal à nous qui sommes romantiques. Romantiques. Mais vous avez toute la méthode de la science. Les hommes ont fait notre éducation. Mais ne vous ont pas expliqué. Décrivez-nous comme sexe, fut le défi. Des sphinges sans secret. Elle le regarda souriante. « Comme Monsieur Gray est longtemps, dit-elle, allons l'aider, je ne lui ai pas dit de la couleur de ma robe. »« Vous devriez assortir votre robe à ses fleurs, Gladys. »« Ce serait une reddition prématurée. »« L'art romantique procède par gradation. »« Je me garderai une occasion de retraite, à la manière des Parthes. » »« Ils trouvèrent la sécurité dans le désert. »« Je ne pourrais le faire. » « Il n'est pas toujours permis aux femmes de choisir, » répondit-il. À peine avait-il fini cette menace, que du fond de la serre arriva un gémissement étouffé, suivi de la chute sourde d'un corps lourd. Chacun tressauta. La duchesse restait immobile d'horreur. Les yeux remplis de crainte, Lord Henry se précipita parmi les palmes pendantes et trouva Dorian Gray gisant la face contre le sol pavé de briques, évanoui comme un mort. Il fut porté dans le salon bleu et déposé sur un sofa. Au bout de quelques minutes, il revint à lui et regarda avec une expression effarée. « Mais qu'est-il arrivé ? » demanda-t-il. « Ah, je me souviens. Suis-je sauf ici, Harry ?» Un tremblement le prit. « Mon cher Dorian, répondit Lord Henry, c'est une simple syncope, voilà tout. Vous devez vous être surmené, il vaut mieux pour vous que vous ne veniez pas au dîner, je prendrai votre place. »« Non, j'irai dîner, dit-il en se dressant, j'aime mieux descendre dîner, je ne veux pas être seul. » Il alla dans sa chambre et s'y habilla. À table, il eut comme une sauvage et insouciante gaieté dans les manières, mais de temps à autre, un frisson de terreur le traversait, alors qu'il revoyait, plaqué comme un blanc mouchoir sur les vitres de la serre, la figure de James Vane, qui le guettait. Chapitre 18. Le lendemain, il ne sortit pas et passa la plus grande partie de la journée dans sa chambre, en proie avec une terreur folle de mourir, indifférent à la vie cependant. La crainte d'être surveillé, chassé, traqué, commençait à le dominer. Il tremblait quand un courant d'air remuait la tapisserie. Les feuilles mortes que le vent chassait contre les vitraux sertis de plomb lui semblaient pareilles à ses résolutions dissipées, à ses regrets ardents. Quand il fermait les yeux, il revoyait la figure du matelot le regardant à travers la vitre embuée, et l'horreur paraissait avoir une fois de plus mis sa main sur son cœur. Mais peut-être était-ce son esprit troublé qui avait suscité la vengeance des ténèbres et placé devant ses yeux les hideuses formes du châtiment. La vie actuelle était un chaos, mais il y avait quelque chose de fatalement logique dans l'imagination. C'est l'imagination qui est le remords à la piste du péché. C'est l'imagination qui fait que le crime emporte avec lui d'obscures punitions. Dans le domaine commun des faits, les méchants ne sont pas punis ni les bons récompensés. Le succès est donné aux forts et l'insuccès aux faibles. C'est tout. D'ailleurs, si quelque étranger avait rôdé autour de la maison, les gardiens ou les domestiques l'auraient vu. Si des traces de pas avaient été relevées dans les parterres, les jardiniers en auraient fait la remarque. Décidément, c'était une simple illusion. Le frère de Sibyl Vane n'était pas revenu pour le tuer. Il était parti sur son vaisseau pour sombrer dans quelque mer arctique. Pour lui, en tout cas, il était sauf. Cet homme ne savait qui il était, ne pouvait le savoir, le masque de la jeunesse l'avait sauvé, et cependant, en supposant même que ce ne fût qu'une illusion, n'était-ce pas terrible de penser que la conscience pouvait susciter de pareils fantômes, leur donner des formes visibles et les faire se mouvoir? Quelle sorte d'existence serait la sienne si, jours et nuits, les ombres de son crime le regardaient de tous les coins silencieux, le raillant de leurs cachettes, lui soufflant à l'oreille dans les fêtes, les veillant de leurs doigts glacés quand il dormirait? À cette pensée rampant dans son esprit, il pâlit et soudainement l'air lui parut se refroidir. Oh, quelle étrangère de folie, celle où il avait tué son ami! Combien effroyable la simple remembrance de cette scène! Il la voyait encore, chaque détail hideux lui revenait augmenté d'horreur. Hors de la caverne ténébreuse du temps, effrayante et drapée d'écarlate, surgissait l'image de son crime. Quand Lord Henry vint vers 6 heures, il le trouva sanglotant, comme si son cœur éclatait. Ce ne fut que le 3e jour qu'il se hasarda à sortir. Il y avait quelque chose dans l'air clair, chargé de senteurs de pin de ce matin d'hiver, qui paraissait lui rapporter sa joie et son ardeur de vivre. Mais ce n'était pas seulement les conditions physiques de l'ambiance qui avaient causé ce changement. Sa propre nature se révoltait contre cet excès d'angoisse qui avait cherché à gâter, à mutiler la perfection de son calme. Il en est toujours ainsi avec les tempéraments subtils et finement trempés. Leurs passions fortes doivent oublier ou les meurtrir. Elles tuent l'homme si elles ne meurent pas elles-mêmes. Les chagrins médiocres, les amours bornés survivent. Les grandes amours et les vrais chagrins s'anéantissent par leur propre plénitude. Il s'était convaincu qu'il avait été la victime de son imagination frappée de terreur, et il songeait à ses terreurs avec compassion et quelque mépris. Après le déjeuner du matin, il se promena près d'une heure avec la duchesse dans le jardin, puis ils traversèrent le parc en voiture pour rejoindre la chasse. Un givre craquant sous les pieds était répandu sur le gazon comme du sable. Le ciel était une coupe renversée de métal bleu. Une légère couche de glace bordait la surface unie du lac entouré de roseaux. Au coin d'un bois de sapins, il aperçut Sir Geoffrey Clouston, le frère de la duchesse, extrayant de son fusil 2 cartouches tirées. Il sauta à bas de la voiture et, après avoir dit au groom de reconduire la jument au château, il se dirigea vers ses hôtes à travers les branches tombées et les broussailles rudes. « Avez-vous fait bonne chasse, Geoffrey ? » demanda-t-il. « Oh, pas très bonne, Dorian. Oh, les oiseaux sont dans la plaine. Je crois que ce sera meilleur après le lunch, quand nous avancerons dans les terres. » Dorian flâna à côté de lui. L'air était vif et aromatique, les lueurs diverses qui brillaient dans le bois, les cris rauques des rabatteurs éclatant de temps à autre, les détonations aiguës des fusils qui se succédaient, l'intéressèrent et le remplirent d'un sentiment de délicieuse liberté. Il fut emporté par l'insouciance du bonheur, par l'indifférence hautaine de la joie. Soudain, d'une petite éminence gazonnée à 20 pas devant eux, avec ses oreilles aux pointes noires dressées et ses longues pattes de derrière étendues, partit un lièvre. Il se lança vers un bouquet d'aulnes. Sir Geoffrey épaula son fusil, mais il y avait quelque chose de si gracieux dans les mouvements de l'animal que cela ravit Dorian qui s'écria « Oh, ne tirez pas, Geoffrey, laissez-le vivre !» « Quelle sottise, Dorian !» dit son compagnon en riant, et comme le lièvre bondissait dans le fourré, il tira. On entendit 2 cris, celui du lièvre blessé, ce qui est affreux, et celui d'un homme mortellement frappé, ce qui est autrement horrible. « Mon Dieu ! J'ai atteint un rabatteur !» s'exclama Sir Geoffrey. « Quel âne que cet homme qui se met devant les fusils !» « Cessez de tirer » cria-t-il de toute la force de ses poumons. « Un homme est blessé !» Le garde général arriva courant, un bâton à la main. « Où, monsieur » cria-t-il. « Où est-il » Au même instant, le feu cessait sur toute la ligne. « Ici !» répondit furieusement Sir Geoffrey en se précipitant vers le fourré. « Pourquoi ne maintenez-vous pas vos hommes en arrière? Vous m'avez gâté ma chasse aujourd'hui !» Dorian les regarda entrer dans l'aunaie, écartant les branches. Au bout d'un instant, ils en sortirent, portant un corps dans le soleil. Il se retourna, terrifié. Il lui semblait que le malheur le suivait où il allait. Il entendit Sir Geoffrey demander si l'homme était réellement mort, et l'affirmative réponse du garde. Le bois lui parut soudain hanté de figures vivantes. Il y entendait comme le bruit d'une myriade de pieds et un sourd bourdonnement de voix. Un grand faisan à gorge dorée s'envola dans les branches au-dessus d'eux. Après quelques instants qui lui parurent, dans son état de trouble, comme des heures sans fin de douleur, il sentit qu'une main se posait sur son épaule. Il tressaillit et regarda autour de lui. « Dorian, dit Lord Henry, ferait mieux d'annoncer que la chasse est close pour aujourd'hui. Ce serait pas bien de la continuer. »« Oh, je voudrais qu'elle fût close à jamais, Harry, répondit-il amèrement. Cette chose est odieuse et cruelle. Est-ce que cet homme est... » Il ne put achever. « Bon, je le crains, répliqua Lord Henry, il a reçu la charge entière dans la poitrine. Il doit être mort sur le coup. Allons, venez à la maison. » Ils marchèrent côte à côte dans la direction de l'avenue pendant près de 50 yards sans se parler. Enfin, Dorian se tourna vers Lord Henry et lui dit avec un soupir profond. Oh, « C'est un mauvais présage, Harry, un bien mauvais présage. »
« Quoi donc ?» interrogea Lord Henry. « Ah, cet accident, je crois. Mon cher ami, je n'y puis rien. C'est la faute de cet homme. Pourquoi se mettait-il devant les fusils? Ça ne nous regarde pas. »« C'est naturellement malheureux pour Geoffrey. Ce n'est pas bon de tirer les rabatteurs. Ça fait croire qu'on est un mauvais fusil, et cependant Geoffrey ne l'est pas, car il tire fort bien. Mais pourquoi parler de cela? Dorian secoua la tête.
Mauvais présage, Harry. J'ai idée qu'il va arriver quelque chose de terrible à l'un d'entre nous. À moi, peut-être.
Il se passa la main sur les yeux avec un geste douloureux. Lord Henry éclata de rire.
Mais la seule chose terrible au monde est l'ennui, Dorian. C'est le seul péché pour lequel il n'existe pas de pardon.
Mais probablement cette affaire ne nous amènera pas de désagrément, à moins que les rabatteurs n'en bavardent en dînant. Je leur défendrai d'en parler. Quant au présage, ça n'existe pas. La destinée ne nous envoie pas de héros. Elle est trop sage ou trop cruelle pour cela. D'ailleurs, que pourrait-il vous arriver, Dorian? Vous avez tout ce que dans le monde un homme peut désirer. Quel est celui qui voudrait changer son existence contre la vôtre?
Il n'est personne avec qui je la changerais, Harry. Ne riez pas, je dis vrai. Le misérable paysan qui vient de mourir est plus heureux que moi. Je n'ai point la terreur de la mort, c'est la venue de la mort qui me terrifie. Ses ailes monstrueuses semblent planer dans l'air lourd autour de moi. Mon Dieu, ne voyez-vous pas derrière ces arbres un homme qui me guette, qui m'attend?
Lord Henry regarda dans la direction que lui indiquait la tremblante main gantée.
Oui, dit-il en riant. Ah, je vois le jardinier qui vous attend. Je m'imagine qu'il a besoin de savoir quelles sont les fleurs que vous voulez mettre sur la table ce soir. Vous êtes vraiment nerveux, mon cher. Il vous faudra voir le médecin quand vous retournerez à la ville.
Dorian eut un soupir de soulagement en voyant s'approcher le jardinier. L'homme leva son chapeau, regarda hésitant du côté de Lord Henry et sortit une lettre qu'il tendit à son maître.
« Sa grâce m'a dit d'attendre une réponse, » murmura-t-il.
Dorian mit la lettre dans sa poche.
« Dites à sa grâce que je rentre, » répondit-il froidement.
L'homme fit demi-tour et courut dans la direction de la maison.
Comme les femmes aiment à faire les choses dangereuses, remarqua en riant Lord Henry. C'est une des qualités que j'admire le plus en elles. Une femme flirtera avec n'importe qui au monde aussi longtemps qu'on la regardera.
Comme vous aimez dire de dangereuses choses, Harry. Ainsi, en ce moment, vous vous égarez. J'estime beaucoup la duchesse, mais je ne l'aime pas.
Mais la duchesse vous aime beaucoup, mais elle vous estime moins, ce qui fait que vous êtes parfaitement apparié.
Vous parlez scandaleusement, Harry, et il n'y a dans nos relations aucune base scandaleuse.
La base de tout scandale est une certitude immorale, dit Lord Henry allumant une cigarette.
Vous sacrifiez n'importe qui, Henry, pour l'amour d'une épigramme.
Les gens vont à l'hôtel de leur propre consentement, fut la réponse.
Mais je voudrais aimer, s'écria Dorian Gray avec une intonation profondément pathétique dans la voix. Mais il me semble que j'ai perdu la passion et oublié le désir. Je suis trop concentré en moi-même. Ma personnalité m'est devenue un fardeau. J'ai besoin de m'évader, de voyager, d'oublier.
C'est ridicule de ma part d'être venu ici. Je pense que je vais envoyer un télégramme à Harvey pour qu'on prépare le yacht.
Sur un yacht, on est en sécurité.
Contre quoi, Dorian? Vous avez quelque ennui? Pourquoi ne pas me le dire? Vous savez que je vous aiderai.
Non, je ne puis vous le dire, Harry, répondit-il tristement.
Et d'ailleurs, ce n'est qu'une lubie de ma part.
Ce malheureux accident m'a bouleversé. J'ai un horrible pressentiment que quelque chose de semblable ne m'arrive.
Quelle folie!
Je l'espère, mais Je ne puis m'empêcher d'y penser. Ah, voici la duchesse. Elle a l'air d'Artémis dans un costume tailleur. Vous voyez que nous revenions, duchesse? Oh, j'ai appris ce qui est arrivé, monsieur Gray, répondit-elle. Ce pauvre Geoffrey est tout à fait contrarié. Il paraîtrait que vous l'aviez conjuré de ne pas tirer ce lièvre. C'est curieux. Oui, c'est très curieux. Je ne sais pas ce qui m'a fait dire cela. Quelque caprice, je crois. Ce lièvre avait l'air de la plus jolie des choses vivantes. Mais je suis fâché qu'on vous ait rapporté l'accident. C'est un odieux sujet. C'est un sujet ennuyeux, interrompit Lord Henry. Il n'a aucune valeur psychologique. Ah, si Geoffrey avait commis cette chose exprès, comme c'eût été intéressant. J'aimerais connaître quelqu'un qui eût commis un vrai meurtre. Mais que c'est mal à vous de parler ainsi, cria la duchesse. N'est-ce pas, monsieur Gray? Harry! Monsieur Gray est encore indisposé, il va se trouver mal. Dorian se redressa avec effort et sourit. Oh, ce n'est rien, duchesse, murmura-t-il. Mes nerfs sont surexcités, c'est tout. Je crains de ne pouvoir aller loin ce matin. Je n'ai pas entendu ce qu'Harry disait. Était-ce mal? Vous me le direz une autre fois. Je pense qu'il vaut mieux que j'aille me coucher. Vous m'en excuserez, n'est-ce pas? Ils avaient atteint les marches de l'escalier menant de la serre à la terrasse. Comme la porte vitrée se fermait derrière Dorian, Lord Henry se tourna vers la duchesse, ses yeux fatigués. « L'aimez-vous beaucoup ?» demanda-t-il. Elle ne fit pas une immédiate réponse, considérant le paysage. « Je voudrais bien le savoir, » dit-elle enfin. Il secoua la tête. « La connaissance en serait fatale. C'est l'incertitude qui vous charme. La brume fait plus merveilleuses les choses. On peut perdre son chemin. » Tous les chemins mènent au même point, ma chère Gladys. Mais quel est-il? Mais la désillusion! C'est mon début dans la vie, soupira-t-elle. Ben, il vous vint couronné. Je suis fatigué des feuilles de fraisier. Elles vous vont bien, hein? Seulement en public, vous les regretterez. Je n'en perdrai pas un pétale. Monmouth a des oreilles. Mais la vieillesse est dure d'oreille. N'a-t-il jamais été jaloux? Je voudrais qu'il l'eût été. Il regarda autour de lui comme cherchant quelque chose. Que cherchez-vous? Demanda-t-elle. La mouche de votre fleuret, répondit-il. Vous l'avez laissée tomber. J'ai encore le masque, dit-elle en riant. « Il fait vos yeux plus adorables !» Elle rit à nouveau. Ses dents apparurent telles de blancs pépins dans un fruit écarlate. Là-haut, dans sa chambre, Dorian Gray gisait sur un sofa, la terreur dans chaque fibre frissonnante de son corps. La vie lui était devenue subitement un fardeau trop lourd à porter. La mort terrible du rabatteur infortuné, tué dans le fourré comme un fauve, lui semblait préfigurer sa mort. Il s'était presque trouvé mal à ce que Lord Henry avait dit par hasard en manière de plaisanterie cynique. À 5 heures, il sonna son valet et lui donna l'ordre de préparer ses malles pour l'express du soir et de faire atteler le Brougham pour 8h30. Il était résolu à ne pas dormir une nuit de plus à Selby Royal, c'était un lieu de funèbre augure. La mort y marchait dans le soleil. Le gazon de la forêt avait été taché de sang. Puis il écrivit un mot à Lord Henry, lui disant qu'il allait à la villa consulter un docteur et le priant de divertir ses invités pendant son absence. Comme il le mettait dans l'enveloppe, on frappa à la porte. Et son valet vint l'avertir que le garde principal désirait lui parler. Il fronça les sourcils et mordit ses lèvres. « Faites-le entrer, dit-il après un instant d'hésitation. Comme l'homme entrait, Dorian tira un carnet de chèques de son tiroir et l'ouvrant devant lui, « Je pense que vous venez pour le malheureux accident de ce matin à Thornton, » dit-il en prenant une plume. « Oui, monsieur, » dit le garde-chasse. « Est-ce que le pauvre garçon était marié ? Avait-il de la famille ?» demanda Dorian d'un air ennuyé. « S'il en est ainsi, je ne le laisserai pas dans le besoin. Je leur enverrai l'argent que vous jugerez nécessaire. » « Mais nous ne savons qui il est, monsieur. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de venir vous voir. »«
Vous ne savez qui il est ?» dit Dorian insoucieusement.
« Que voulez-vous dire ? N'était-il pas un de vos hommes ?»«
Non, monsieur, personne ne l'avait jamais vu. Il a l'air d'un marin. »
La plume tomba des doigts de Dorian, et il lui parut que son cœur avait soudainement cessé de battre.
« Un marin ? » clama-t-il. « Vous dites un marin ? » ?»«
Oui, monsieur, il a vraiment l'air de quelqu'un qui a servi dans la marine. Il est tatoué aux deux bras, notamment. »«
A-t-on trouvé quelque chose sur lui ?» dit Dorian en se penchant vers l'homme et le regardant fixement. « Quelque chose faisant connaître son nom ?»«
Bon, rien qu'un peu d'argent et un revolver à 6 coups. Nous n'avons découvert aucun nom. » L'apparence convenable mais grossière, une sorte de matelot, croyons-nous.
Dorian bondit sur ses pieds. Une espérance terrible le traversa. Il s'y cramponna follement.
Où est le corps ? S'écria-t-il. Vite, je veux le voir.
Il a été déposé dans une écurie vide de la maison de ferme. Les gens n'aiment pas avoir ces sortes de choses dans leur maison. Ils disent qu'un cadavre apporte le malheur.
La maison de ferme. Ah, allez m'y attendre. Dites à un palefrenier de m'amener un cheval.
Non, n'en faites rien. J'irai moi-même aux écuries. Ça économisera du temps.
Moins d'un quart d'heure après, Dorian Gray descendit au grand galop la longue avenue. Les arbres semblaient passer devant lui comme une procession spectrale et les ombres hostiles traversaient son chemin. Soudain, la jument broncha devant un poteau de barrière et le désarçonna presque. Il la cingla à l'encolure de sa cravache. Elle fendit l'air comme une flèche, et les pierres volaient sous ses sabots. Enfin, il atteignit la maison de ferme. Deux hommes causaient dans la cour. Il sauta de la selle et remit les rênes à l'un d'eux. Dans l'écurie la plus écartée, une lumière brillait. Quelque chose lui dit que le corps était là. Il se précipita vers la porte et mit la main au loquet. Il hésita un moment, sentant qu'il était sur la pente d'une découverte qui referait ou gâterait à jamais sa vie. Puis il poussa la porte et entra. Sur un amas de sacs au fond, dans un coin, gisait le cadavre d'un homme habillé d'une chemise grossière et d'un pantalon bleu. Un mouchoir taché lui couvrait la face. Une chandelle commune, fichée à côté de lui dans une bouteille, grésillait. Dorian Gray frissonna. Il sentit qu'il ne pouvait pas enlever lui-même le mouchoir. Il dit à un garçon de ferme de venir. « Ôtez cette chose de la figure, je voudrais la voir, » fit-il en s'appuyant au montant de la porte. Quand le valet eut fait ce qu'il lui commandait, il s'avança. Un cri de joie jaillit de ses lèvres. L'homme qui avait été tué dans le fourré était James Vane. Il resta encore quelques instants à considérer le cadavre. Comme il reprenait en galopant le chemin de la maison, ses yeux étaient pleins de larmes, car il se savait la vie sauve.